And your lungs that familiar, that mysterious being we call blood, can teach you its secrets.
Les vibrations de la communauté, CKUT FM 90.3.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Salut! Bienvenue à votre podcast juridique préféré, Touche pas à mes droits, de la Clinique juridique de Saint-Michel, en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel, Néolabs, la ville de Montréal. Donc, bienvenue à notre 9e émission de l'année et notre 2e émission, dans le fond, de la session d'hiver. On est vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et comme d'habitude, on va parler de profilage racial. Je m'appelle Lina, je vais être votre host aujourd'hui et je suis avec mon collègue Ali. Comment ça va, Ali?
Ça va super bien, Lina, et toi?
Super! On est vraiment content d'avoir des invités vraiment remarquables aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va avoir Maître Fernando Belton, qui est un avocat criminaliste, cofondateur de la clinique juridique de Saint-Michel, ainsi que Mana Chouker, qui est elle une étudiante en droit, ainsi que la coordonnatrice du comité profilage racial de la clinique juridique de Saint-Michel. Et finalement, on a aussi Maître Yeboa, qui est un criminaliste également. Donc, ça va être une conversation fort intéressante et on est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui.
Donc, merci à tous pour d'accepter notre invitation et faire partie de notre émission et parler du profilage racial. Comme dirait Iba, une des bénévoles à la clinique, le profilage, c'est le sujet de l'heure, mais la réalité de toujours. Donc, aujourd'hui, l'émission est particulière. Nous allons discuter à propos du projet cousin à celui-ci du profilage racial et ensuite à notre invité, Maître Yeboa, qui nous parlera de son expérience et sa perspective en tant que victime de profilage racial et avocat. La dernière émission, nous avons fait une mise en situation de profilage et cette semaine, on a une source première.
Okay, donc, on va commencer tout d'abord avec les questions pour Maître Fernando et Manar. Donc, on sait très bien que la clinique juridique de Saint-Michel s'engage à être un allié très fort dans la lutte contre le profilage racial. Donc, on aimerait un peu vous nous parler du travail du comité profilage racial et qu'est-ce que vous faites day-to-day avec le comité.
Donc, merci Nina pour ta présentation du début. On est ravis d'être là aujourd'hui. Dans le fond, le comité profilage racial joue un rôle clé à la clinique en ce qui concerne la lutte au profilage. Donc, c'est une équipe de 12 étudiants qui vont accompagner des victimes de profilage racial dans la rédaction de plaintes à la commission en déontologie policière, à la commission des droits de la personne et aussi dans tout ce qui est processus de dénonciation par rapport au profilage racial. Donc, aussi, ces étudiants-là ont des projets spéciaux sur lesquels ils travaillent très, très fort, comme des chaires de recherche en partenariat avec l'Université d'Ottawa. Ils ont certains autres projets comme l'organisation du marathon, le fameux marathon de la clinique de Saint-Michel que vous connaissez tous. Ils ont certains autres projets tels que une recherche sur le profilage racial chez les Autochtones avec Maître Eve Aoun et une certaine étude jurisprudentielle qu'on va bientôt publié sur le site internet de la clinique.
Ce que je rajouterais, Lina, d'abord, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Je me rappelle, je suis venu au premier épisode. On peut voir que Touche pas à mes droits a grandi. L'idée aussi avec le comité, c'est que ces étudiants-là aujourd'hui qui sont étudiants qui travaillent sur des dossiers vont avoir tout au cours de leur parcours touché à beaucoup de dossiers. Ils vont avoir compris les concepts, ils reçoivent la formation. Donc l'idée aussi c'est quand ils seront devenus des avocats au jour numéro un, ils vont avoir un bagage d'expérience qui est très important en termes de lutte contre le profilage racial, de savoir comment le mécanisme fonctionne. Et je leur ai dit, j'espère qu'ils m'entendent ce soir quand je leur dis, j'espère au moins que la moitié, le trois quarts ou 100% des étudiants-là continuent à s'impliquer à la clinique une fois rendus avocats, prennent des dossiers eux-mêmes, de sorte qu'on puisse avoir une nouvelle ordre d'avocats quand ils arrivent dans la pratique au jour numéro un, qu'ils soient capables de pouvoir faire une différence en ce sens.
Et donc, suite à ces projets, l'analyse, en fait, toutes les études qui se passent avec le projet profilage racial,
J'imagine que ça aide surtout les étudiants, les futurs avocats, à déceler l'odeur du profilage racial dans les différents cas. Est-ce que vous avez plus d'informations de comment c'est possible de faire cette analyse, comment on peut regarder les différents cas et juste voir à quel moment ça vient du profilage contre une intervention, une interpellation, une arrestation, une détention?
Une interpellation avec la police, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de simple. Okay? Un policier constate une infraction, va venir indiquer au citoyen, voilà ce que j'ai constaté, est-ce que je peux avoir tes papiers? Le citoyen lui remet, la contravention est donnée, tout le monde s'en va à la maison. Le citoyen est content et fâché parce qu'il y a une contravention, mais c'est pas quelque chose qui, une interpellation de routine est pas traumatisante, mis à part le fait de recevoir une contravention, ok? Quand on parle de ce concept-là qui me vient de Maître Emar Misakila, qui, lorsqu'il faisait la formation pour nos étudiants, il parlait du fait qu'il fallait déceler une odeur de profilage racial quand on devrait savoir est-ce que oui ou non c'est un dossier qui, dans lequel il y a eu une interpellation qui était problématique. Et l'idée, c'est la suivante. En 2021, vous aurez pas un policier qui va intercepter une personne, qui va le traiter de espèce de telle chose. Okay? Donc, on n'aura pas de preuve au niveau de la discrimination qui est directe. Donc, la preuve du profilage racial se fait toujours de manière indirecte. Et comment on va être en mesure de faire? Je vous ai décrit comment une interpellation normale se passe. Mettez à côté de ça comment beaucoup de personnes racisées vivent leur interpellation. Ça veut dire de un des personnes souvent qui se font contrôler pour aucune raison. On va essayer de voir est-ce que comment c'est quoi les paroles qui ont été prononcées, c'est quoi les raisons qui vont, c'est quoi la réelle raison de l'interception. Et souvent vous allez voir que dans le cas où est-ce que les choses dégénèrent, on va peut-être décider d'arrêter les gens, de les menotter, puis après ça on leur dit ben vous pouvez partir parce qu'en fait il y avait pas de raison pour l'interpellation. Le profilage racial c'est une discrimination qui est indirecte et la raison pour laquelle souvent des policiers vont interpeller des personnes, c'est simplement basé sur la couleur de leur peau. Ça a aucune raison et ça a aucun motif qui découle de l'application générale du code de la sécurité routière ou d'avoir constaté une interception. On voit un profil type d'une personne, monsieur noir qui conduit un certain type de véhicule, une personne racisée, une personne arabe, une personne autochtone, et on décide à cause de la couleur de sa peau ou de son allure de l'intercepter. Et c'est ce qu'on dénonce et c'est comme ça qu'on est en mesure de voir est-ce que oui ou non il y a un profilage racial. On le compare avec en fait une interpellation qui devrait être de routine, quelque chose de banal souvent.
Puis le truc que souvent Fernando nous donne en tant qu'étudiant, parce qu'on fait beaucoup de formations là-dessus qui sont fort intéressantes et vraiment enrichissantes, il nous dit, est-ce que si une personne blanche aurait été mise dans les mêmes circonstances, est-ce que le résultat aurait été le même? Donc je pense que quand on se pose cette question, on peut savoir s'il y a eu profilage ou pas.
C'est un bon point, Léna, puis je vais juste enchérir là-dessus. L'idée, c'est que moi, j'ai constaté au courant de ma pratique, les personnes blanches ne sont pas interceptées, ne sont pas traitées par la police de la même façon que les autres personnes. C'est aussi simple que ça. Même, vous savez que même quand on parle des enfants, on déshumanise l'enfant parce qu'on le voit comme un noir ou un arabe ou un autochtone et on oublie que certaines interpellations, quand vous voyez le langage que des policiers vont employer envers des enfants, vous voyez que tout ce qu'ils voient, c'est la couleur de sa peau. C'est pas l'enfant qui est devant soi. Donc, c'est un bon point que tu amènes là-dessus.
C'est comme si on devient enfant, on devient adulte un peu trop vite, là, mm-hmm. quand on est racisé. Et puis, ça m'emmène justement à parler d'un cas réel, dans le fond, de profilage. C'est la ville de Montréal contre Baptiste. C'est un arrêt qui est très fort en termes de profilage. Le juge Richmond, il explique que notre droit à la liberté d'expression protège nos réactions face à des situations d'injustice. Donc, en d'autres termes, on a le droit de crier à l'injustice. On a le droit d'être fâché si on se fait arrêter pour rien, si on se fait, s'il y a une violation de nos droits. On a le droit de crier à l'injustice. Donc, j'aimerais juste savoir un peu un tour de table. Qu'est-ce que vous en pensez de manière générale?
Je vais laisser Manon aller d'abord.
Ben, moi, je suis 100% d'accord avec le juge qui a prononcé ça. Je trouve que c'est, comment dire, une lueur d'espoir un peu qui nous lance en l'air. Avec toute la jurisprudence qu'on peut lire, dans le fond, un juge qui vient dire ça, je trouve que, mais dans le fond, c'est comme un espoir de plus qu'on nous lance. C'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que les policiers qui abusent, qui ne respectent pas la charte canadienne, qui est supposée de nous protéger, de protéger nos droits, il faut que si nos droits sont bafoués, il faut qu'on soit capable de s'exprimer face à ça. Donc, le fait que même si nos droits sont bafoués, qu'on doit devoir rester silencieux seulement parce qu'on est face à un policier, une autorité de l'État. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Dans n'importe quelle situation, les droits sont toujours avec moi. C'est quelque chose d'immatériel qui est avec nous tout le temps en tant que citoyen, en tant qu'humain. Donc, pour moi, s'il y a un policier ou pas, si jamais on voit nos droits bafoués, eh bien, on peut crier autant qu'on veut parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'envoyer à quelqu'un.
Léna, je vais... Oui. Désolé, vas-y, je m'excuse.
Non, j'ai juste demandé à Mathieu Bois s'il voulait ajouter quelque chose par rapport à ça.
Bien sûr, c'est sûr que souvent les lois sont genre, les lois comme la charte sont édictées pour protéger les plus faibles. Mm-hmm. Vous voyez? Et quand vous voyez qu'un simple citoyen face à des policiers, mais la bataille est inégale. C'est un simple citoyen qui va contre les policiers. Les policiers, ils ont la ville qui les protège. Ils ont un syndicat très fort qui les protège. Monsieur, madame, tout le monde n'a pas cette protection. Alors la charte est là, en sorte que tu peux te retourner un peu pour contrebalancer la différence de l'inégalité qui existe entre ces deux. Alors c'est normal que un juge cite ça, parce que si les citoyens n'ont pas aucune avenue pour se protéger ou bien pour proclamer l'injustice ou parler contre ça, mais ça devient que les policiers, c'est une bataille inégale. Vous comprenez, c'est les policiers, ils vont toujours avoir une genre de puissance envers la population. C'est ça que je voulais ajouter.
Je vais lire le premier paragraphe de cet arrêt-là, okay, qui il dit tout. Le juge Richmond dit « La conduite par une femme d'un véhicule appartenant à un homme n'est pas un motif valable d'intercession et protester contre le profilage racial n'est pas une infraction. » Pour moi, c'est un mic drop juste comme ça. L'idée, c'est que dans cet arrêt-là, c'est une femme noire qui est en train de conduire un véhicule. Le policier va dire « Ben la raison pourquoi j'intercepte madame d'abord et avant tout, c'est parce qu'elle conduit le véhicule qui appartient à un homme. » Et c'est ce qu'on essaie de trouver quand on essaie de prouver du profilage racial. C'est une preuve indirecte, souvenez-vous. Donc, c'est un prétexte qu'on utilise pour, par la suite, trouver une vraie raison pour, en fait, donner une contravention à un citoyen. Et là, madame s'est mise à protester. Elle s'est mise à dire, ben, monsieur, moi, je pense que je suis victime de profilage racial. Et, c'est ce que le juge Richmond dit. Puis, c'est un juge qu'on aime beaucoup à la défense parce que, il faut le dire, puis je l'ai dans tout respect pour notre chère magistrature, très peu de juges ont, de un, cette sensibilité-là, de un, de deux, ont envie en fait, comprennent assez bien le concept d'une preuve indirecte, parce que ce qu'on est, on est toujours en train de chercher souvent dans les dossiers un lien de causalité. Ça veut dire, quelqu'un a commis une faute et voilà comment ça s'est réglé. Mais dans les dossiers de profilage racial, on n'a pas ça souvent. Donc, il faut avoir ce courage-là de pouvoir le dénoncer. Puis c'est pour ça que cet arrêt-là qui a été rendu en 2009, je trouve qu'il est important. Et ça renforce le droit des citoyens de pouvoir se tenir en face d'un officier et de protester. Protester ne veut pas dire que tu collabores pas, mais c'est d'avoir ta liberté d'expression pour dire « je suis une victime, puis je suis obligé de toujours rester dans le silence ».
Oui, exactement. En fait, le lien de causalité, c'est une des premières choses qu'on apprend en droit à l'école, en fait. Donc, c'est vraiment ancré dans le système juridique qu'on a, surtout au Canada. Mm-hmm. Et en fait, on a déjà parlé, pour les auditeurs récurrents, on a parlé de Baptiste contre la ville de Montréal le dernier podcast, et c'est là qu'on avait parlé du concept de l'intersectionnalité. Et ça s'applique vraiment dans tous les principes de l'État. Donc, surtout dans le système juridique aussi, il ne faut pas traiter un cas de profilage de la même façon qu'on traiterait juste un cas régulier à cause de toutes ces preuves indirectes et juste tous ces principes qui ne sont pas matériels et les biais inconscients et tout. Et juste avant, on avait, monsieur Maître Hubois, vous avez mentionné l'inégalité que la police a contre l'individu et aussi un autre rond de table. À quel point le pouvoir discrétionnaire de la police peut aller? Parce qu'on parle souvent de les gens se font interpeller pour n'importe quelle raison. C'est quoi les limites à ces pouvoirs?
Enfin, même s'ils ont un pouvoir discrétionnaire, c'est quand même couvert. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Son pouvoir discrétionnaire doit être, comment on dirait ça? Ça doit être raisonnable. Mm-hmm. Vous comprenez? Ça ne peut pas ne pas être déraisonnable. On ne peut pas partir d'un simple ticket pour, avoir fait de la vitesse à noter quelqu'un. Il y a une là, ta discrétion est un peu trop loin. Puis souvent, les policiers, on dirait, quand il s'agit des gens racisés, c'est là que tu vois que le pouvoir discrétionnaire est un peu plus élargi. C'est un peu plus... mais quand il s'agit des personnes blanches, je dirais, en fait, le comportement ou envers eux change. Là, ils appliquent les normes qu'ils doivent appliquer, et ainsi de suite. So, c'est plus ça. C'est pas le pouvoir discrétionnaire à faire ce qu'ils veulent. La cour a quand même encadré le pouvoir discrétionnaire de la manière qu'ils doivent être utilisés.
Absolument. Puis ça m'amène à penser ça dans le fond. Ce genre de situation d'injustice, ça mène ultimement au fait que les personnes racisées, il y a comme un bris de confiance entre les personnes racisées et les institutions. Donc, comment est-ce qu'on peut, en tant que société, là, je parle autant des personnes racisées que des personnes racisées, donc comment est-ce qu'on peut, d'un, être un vrai allié pour la cause? Parce que moi, même si je suis une personne racisée, je ne suis pas une personne noire. Donc, il y a beaucoup de choses que moi-même, j'ai du privilège là-dedans. Donc, comment est-ce qu'on peut être des vrais alliés, premièrement? Et comment est-ce qu'on peut, en tant que société, retravailler ce lien de confiance entre les personnes racisées et les institutions d'État?
l'idée, c'est la suivante. Okay? Moi, je pense qu'on est aujourd'hui dans un cercle vicieux. Il serait difficile de pouvoir briser la chaîne, puis je vais l'expliquer de la façon suivante. On a par exemple dans certains endroits à Montréal et au Québec un bris complet de confiance entre les citoyens et le service de police. Il faut comprendre que la police, son mot d'ordre, quoi, c'est de dire qu'on est là pour protéger et servir. Donc, vous êtes en fait au service des citoyens. Vous êtes là pour les protéger et pour pouvoir les servir. Quand un policier, par exemple, applique le code de la sécurité routière, il devrait le faire dans une pensée puis dans un but de protection du public. On protège les gens en s'assurant que tout le monde respecte la loi. C'est un peu ça l'idée. Mais quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe maintenant quand dans certains secteurs, il y a des interpellations répétées? Et il y a un bris de confiance qui arrive envers le service de police. Les gens qui se font intercepter, même lorsque l'interception est correcte, même quand tout se passe bien, ils se disent « j'ai été profilé ». Que ce soit à tort ou à raison. Okay? Le policier, lui, qui intercepte le citoyen, comprend pas pourquoi le citoyen, par exemple, le traite de raciste ou s'exprime en disant avoir été victime de profilage racial, parce que dit, ben, si t'es blanc, t'aurais intercepté exactement de la même façon. C'est sûr, ça évacue des fois la question des biais inconscients. Mais si on met ça à côté, c'est ce cercle fait en sorte que la police sait plus comment traiter avec certains citoyens. Les citoyens font plus confiance à la police et la roue tourne comme ça. C'est pour ça que, je pense que c'est un changement complet paradigme qu'il faut avoir, une nouvelle façon de comprendre de un le rôle de la police et c'est pas aux personnes qui sont victimes à mon sens de trouver la solution à la place de l'oppresseur. Parce que ça fait pendant longtemps, ça fait depuis les 40-50 dernières années au Québec, à Montréal, qu'on a des morts qui s'accumulent, qu'on a des victimes qui s'accumulent, et malgré tous les rapports qui ont été écrits, malgré toutes les recommandations qui ont été faites, on est encore dans un statu quo où est-ce que, en fait, c'est même pas un statu quo, moi j'estime qu'au cours des dernières années, il y a une recrudescence des cas au niveau du profilage racial. Donc, moi je pense que les alliés doivent dénoncer, parler, partager, se positionner par rapport à où est-ce qu'ils sont dans ce débat. Renzold, qui est un de mes amis, dit toujours, on veut pas des gens qui disent qu'ils sont pas racistes, on veut des gens qui disent qu'ils sont antiracistes, qui sont activement dans la... Puis c'est pas nécessairement de prendre la bannière, de se promener dans les manifestations, mais c'est au moins, au minimum, de prendre position par rapport au débat et de dire, mais nous, on veut que ça cesse. Et je pense que le fardeau du changement repose sur les personnes qui doivent décider et sur les gens qui profilent. Parce que nous, comme personnes qui... Je veux pas prendre la cause entre nous qui sommes là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà, de manière très claire, dit voilà de quoi on est victime. Et aujourd'hui, c'est aux autres de pouvoir amener le changement.
Absolument. Puis je suis vraiment d'accord avec le fait que les alliés doivent se positionner face à ça. Je trouve que c'est vraiment important. Je vais laisser Ali continuer avec notre prochaine question.
En fait, j'avais juste un petit lien à faire avec ça. Je me demandais si le comité profilage racial... En tant qu'analyse jurisprudentielle, juste former des futurs avocats, si vous croyez aussi que ça va aider à briser ce cercle vicieux en fait, qu'on parlait.
Ben, si je peux, moi je trouve que oui. Dans le fond, comme Fernando il a parlé tantôt par rapport aux liens de confiance, je trouve que je suis vraiment d'accord avec ça dans le sens où c'est pas normal que des personnes, des jeunes aujourd'hui, disent même qu'ils ont peur de la police. Comme c'est même plus... La police ne représente même plus une institution qui est là pour protéger. Ça fait littéralement un effet contraire. Les gens qui sont racisés ont des fois même peur. Il y a des dossiers qui arrivent ici à la clinique juridique où la personne, elle a peur de porter plainte en déontologie. Mm-hmm. Juste récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait 3 ans, je suis pas capable de faire une plainte en déontologie. Il y a un sentiment de peur. Donc, clairement, c'est du côté de l'oppresseur qui doit avoir un changement. Comme ce que Fernando a dit, et d'un autre côté, le comité, je pense qu'en donnant des outils, en les accompagnant, on leur montre que il y a une façon de dénoncer, il y a une façon d'agir, et de donner une assurance, et comme ça, la prochaine interception qui arrive, ben, la personne va avoir plus de courage pour dire « Hey, moi, toi, là, je vais te dénoncer en déontologie. Hey, moi, là, je vais sortir mon téléphone, je vais te filmer. » Ça va comme travailler un peu plus, malgré que, comme Fernando a dit, moi, je trouve pas que c'est à la victime d'aller régler tout ce problème de profilage racial, mais quand même, l'accompagnement qu'on fait, c'est de l'information qu'on donne aux personnes racisées pour mieux comprendre c'est quoi leur recours puis comment ils peuvent agir avec les policiers pour justement moins avoir peur face à ça.
Juste là-dessus, j'aimerais rajouter quelque chose. Oui. Je vais vous donner un cas type, OK? Une personne qui reçoit un cas qu'on a, par exemple, un citoyen reçoit une contravention de 150$ pour avoir jeté sa bière ou pour avoir consommé de l'alcool dans un parc. Nous, on pense que cette personne était victime de profilage racial, notamment parce que, un, on a une défense à faire valoir sur le fond, ça veut dire qu'ils consommaient de l'alcool, mais oui, mais avec de la nourriture, ce qui est permis dans un parc. Et de deux, au niveau de la question du profilage racial, c'était la seule personne noire qui était dans le cercle. Il y avait environ 5 personnes blanches. C'est le seul qui reçoit une contravention. Pourquoi c'est lui qu'on décide de viser parmi les autres? Maintenant, le problème est le suivant. Avec une amende de $150, est-ce que cette personne-là peut décider d'aller engager un avocat pour défendre sa cause? C'est compliqué. Parce que moi, par exemple, si quelqu'un vient me voir pour un ticket, comme je veux dire, si dans un cadre normal, je dis paye ta contravention. À moi, est-ce que tu veux vraiment te battre pour la question du principe? Maintenant, avoir un avocat qui vient avec toi à la cour, rédiger une requête en excusant de la preuve pour faire valoir tes droits, etc. Facilement, la facture peut monter jusqu'à 1 500 $, tandis qu'on parle d'une contravention de $150. À ça, ça ajoute aussi le fait que beaucoup de criminalistes, et je le dis, c'est pas un reproche, c'est une question stratégique, plaideront pas à la question du profilage racial. Parce que si, comme criminaliste, qu'est-ce que tu veux? Tu vas essayer de voir c'est quoi tes meilleurs, c'est quoi la meilleure stratégie pour ton client. Et si t'as une défense à faire valoir sur le fond de fraction, peut-être qu'au niveau de la violation des droits, tu serais prêt à laisser tomber parce que tu penses qu'il y a une autre façon de faire acquitter ton client de manière plus facile. Et c'est là que le comité prend tout son sens. C'est là que le comité, je pense, a un impact parce que on va prendre des dossiers où est-ce que, moi, même si c'est une contravention pour un ticket de parking, pour un stationnement, je suis prêt à aller plaider la question du profilage si je pense qu'il y a eu profilage. Et en même temps, je pense que les étudiants qui sont au sein du comité, qui auront été outillés, seront très à l'aise. Contrairement à moi, quand je venais de commencer ma pratique, ben, quand on me parlait de profilage, j'étais vraiment très réticent à aller plaider ce genre de cause-là parce que, justement, on parle toujours du fait que la preuve est difficile à faire. Mais je pense que c'est un changement de mentalité au sein même des gens qui vont exercer cette profession-là par la suite parce que eux auront vu ces dossiers-là puis seront très à l'aise de pouvoir dire, ben, puis d'analyser un dossier puis voir c'est quoi du profilage racial et aller le plaider devant la cour, peu importe quoi l'infraction.
Absolument. Puis je pense que c'est là que comme tu as dit, que le comité nous donne tout son sens. Puis je pense que vraiment, les cliniques juridiques, tout ça, tout ce qui sert un peu l'accessibilité à la justice, c'est vraiment des outils dont on a besoin. Donc, j'aimerais juste vous remercier pour avoir pris le temps de parler avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment contente. On va prendre une petite pause maintenant et ensuite, on va faire l'entrevue avec Maître Yeboah. Donc, j'aimerais vraiment remercier Maître Fernando Belton ainsi que Manar Choukair pour leur participation. Merci beaucoup.
Bien, merci pour l'invitation. À la prochaine.
Merci.
Donc, nous sommes de retour de notre pause au podcast Touche à mes droits. Donc, on a eu une conversation super pertinente avec Maître Belton et Manar Choukair du comité profilage racial et avec Maître Yeboah. Et on va continuer notre entrevue avec Maître Yeboah maintenant. Donc, comme je vous avais dit, on a Maître Yeboah qui est une victime de profilage racial. Et donc, je vais vous donner une petite mise en situation, une mise en contexte de qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine. Il circulait au centre-ville accompagné avec sa fille de 15 ans pour récupérer une commande de restaurant. Assez normal, on a tous fait ça. Et son téléphone sonnait, sa fille répond. Quelques instants plus tard, les policiers leur demandent d'immobiliser leur voiture. Donc, déjà là, il y a des questions particulières qui vous ont été posées. Juste même avant de nous informer des motifs de votre arrestation, à qui appartient l'automobile? Où allez-vous? Juste des questions un peu agressives déjà là, on commence pas bien. Après avoir tendu votre permis au policier, il manquait le certificat d'assurance ainsi que l'immatriculation, comme c'est l'auto de votre femme, et vous ne savez pas ça se trouvait où, c'est ça?
Exactement.
Et Pendant le temps que vous êtes en train de chercher toute l'information, deux autres autopatrouilles rejoignent la première. Donc, il y a 6 policiers en ce moment, juste pour pour être interpellés.
Exactement.
Donc, suite à ça, vous trouvez les papiers et vous êtes menottés et mis à l'arrière de votre voiture.
Pas de ma voiture, de leur voiture.
De leur voiture, encore pire. Donc, pendant tout ça, les policiers vous ont fouillé votre téléphone et vous leur avez même expliqué que ça contenait de l'information à vos clients protégés, puisque vous êtes avocat. Et qu'est-ce qu'on appelle le secret professionnel? Donc, c'est qu'est-ce que vous, pour les auditeurs, qu'est-ce que vous pensez qu'un médecin peut pas juste parler de votre information personnelle à n'importe qui? C'est la même chose avec un avocat. Et quand vous avez expliqué ça, les policiers, ils ont juste ri. Ils ont complètement invalidé cette situation. Donc, on a appris que ça s'est finalement mitigé un peu quand ils ont trouvé votre carte du barreau dans votre portefeuille. Et donc, est-ce que vous avez vu le moment où que ça a changé dans les yeux des policiers quand ils ont vu et réalisé que vous étiez avocat, même après qu'ils avaient invalidé cette situation?
Au fond, j'étais menotté derrière le véhicule. Je les voyais fouiller mon portefeuille. Je le voyais venir déjà dans ma tête. La première carte qu'il a sortie, c'était la carte d'assurance maladie. Mm-hmm. Ensuite, il a sorti ma carte d'étudiant du barreau. Okay? Après, il sort ma carte de membre. Puis là, je pense ils se sont regardés. Puis le policier qui venait, c'est comme si à ce moment-là, il a réalisé, je pense que tout ce que ce monsieur-là nous dit est vrai. Mm-hmm. Tu vois? Alors, ils sont ressortis du véhicule. Puis ils sont allés en caucus entre eux, dehors, les 6. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Là, il revient dans le véhicule, tout ça. Je suis encore menotté derrière le véhicule. Puis là, il me dit, écoute, si tu vas pas être trop fâché, on va t'enlever le menotte et on va te donner un ticket pour avoir eu ton cellulaire. Je dis, mais tu penses pas que j'ai toutes les raisons pour être fâché? C'est pas mal, qu'est-ce que vous faites, menotte, tout ça, pour me donner un ticket pour un cellulaire devant ma fille? Ça n'a aucun sens.
Et 6 policiers, pour
6. Tu sais, ça, la loi ne les empêche pas d'être 10 dans une intervention. Même si pour moi, je trouve que c'est de l'intimidation, vous voyez. Mm-hmm. Mais la loi ne les empêche pas. Mais la loi les empêche de menoter un citoyen qui n'a rien fait. Parce que je n'étais pas aucun danger pour eux, absolument rien du tout. Je n'ai pas agi avec eux de manière agressive. D'ailleurs, dans les vidéos, vous pouvez voir, je tempérais avec eux. Ce n'était pas de manière agressive, quoi que ce soit.
Mais justement, c'est ça aussi qui m'a choqué aussi quand moi j'ai vu la vidéo, c'est comment vous avez fait pour garder votre sang-froid? Comment, dans une telle situation, surtout que vous êtes avocat, après avoir entendu premièrement des remarques désobligeantes à votre égard, avoir reçu une attitude qui est condescendante, rire de vous quand vous dites que vous êtes avocat, comment vous faites pour garder votre calme si vous voyez toutes les infractions, toutes les choses qui ne devraient pas être, se passer devant vous? Comment vous faites?
Quand il m'a mis les menottes en premier, les 4 sont venus sur moi, puis le premier m'a mis les menottes, moi, tout de suite, mon instinct était de survivre. Parce que je voulais pas me faire aucun geste brusque, rien de qui avait l'air comme si je voulais me battre avec eux. Puis ma fille était là. Je me dis, bon, si quelque chose m'arrive, pas devant elle. Je veux pas, tu sais, elle va être traumatisée à vie si quelque chose m'arrive. Alors moi, dans ma tête, c'est plus en mode de survie. Écoute qu'est-ce qu'ils disent, fais ce qu'ils veulent, on va régler ça après. Tu vois, puis si j'ai un conseil à donner à quelqu'un et à tout le monde, si jamais ils se trouvent dans la même situation, c'est absolument important juste d'écouter, obtempérer, même si vous savez que vous êtes dans vos droits, puis c'est après la bataille, pas à ce moment-là, quand c'est un peu excité.
Donc vous sentez que vous avez un peu sacrifié quelques de vos droits pour votre vie, en fait, pour votre sécurité.
Oui, j'ai sacrifié, je savais que c'était ce qui faisait être pas vrai, mais en même temps, je me suis dit, bon, ça va empirer si à ce moment-là, j'essayais de me débattre ou quoi que ce soit avec eux. Eux, ils étaient 6. J'étais seul avec ma fille. Ma fille, elle n'allait pas pouvoir me défendre contre les policiers. Puis, c'est juste normal que je les écoute. OK, non, derrière le dos. Je regarde le silence. Mais par-dessus la voiture, ils me fouillent. OK, vous voyez? Puis, c'est après que moi, maintenant, je mène cette bataille. Parce qu'une autre personne, probablement dans ma situation, un peu plus agitée, un peu plus combative, ça aurait été complètement tourné à une autre histoire, je vous l'assure.
Mais c'est vraiment horrible aussi d'avoir un peu... On a parlé de ça une fois dans une des émissions du Talk, que les parents font à certains enfants, comme quoi, si la police t'arrête, tu dois être comme ça, comme ça, comme ça, parce que ta sécurité est en jeu. Puis justement, est-ce que... Tu sais, comment répondre quand un policier n'a pas l'air de te croire? Tu lui dis, je suis avocat, il n'y a rien, tout ça. Quelqu'un qui te regarde de haut, Est-ce que c'est ça que vous direz, c'est d'être, de rester calme, de rester posé, puis ensuite porter plainte?
Oui.
OK.
Et parce que sur le genre, tu es impuissant face à eux. Tu peux rien faire. Lui a le menotte, il a les fusils.
Ah, c'est lui qui a le fusil.
Tout, hein. Vous pouvez rien faire. Ça sert à rien de se battre avec à ce moment-là. Mm-hmm. Mais une fois qu'il vous laisse, il est primordial de faire une plainte et de pas laisser. Le plus de monde qu'on va faire des plaintes, le plus qu'ils vont savoir qu'il y a un problème. Mm-hmm. Le gros problème, c'est que souvent, depuis qu'on était jeunes, les policiers nous abusaient, ainsi de suite. Mais on allait chacun dans notre coin souffrir en paix. On faisait pas plainte. On acceptait. Ah, il m'a juste fait ça, c'est pas grave. On se plaint un peu à les amis, mais on fait jamais de plainte. Vous voyez? Mm-hmm. Je pense que cette année, ils sont rendus à 480 plaintes. Wow. Le jour qu'ils vont être rendus à... toute l'année, ils étaient à 480. Mais le jour qu'ils vont être rendus à 1000, 2000 plaintes par année, là, je pense que quelqu'un là-bas va dire « Oh, on a un problème. » C'est ça.
Wow. En fait, on parle souvent de victimes de profilage et porter les plaintes ensuite. Et un principe que quelquefois, on n'en parle pas aussi souvent, c'est les témoins, les personnes qui le voient se passer devant vous, devant eux. Quand vous avez dit votre fille était là avec vous et en train de filmer, c'est ça?
Oui, au fond, moi, j'ai eu le réflexe de lui dire « filme », parce que après ça, c'est la parole contre celui de 6 policiers. Mm-hmm. So, je lui disais « filme », eux autres lui disaient « non, va toi dans la voiture, sinon tu vas avoir des problèmes. » Mais la fille, elle a 15 ans. Elle ne sait pas qui écouter, son père ou les policiers. So, elle, à un moment donné, elle s'assoit dans la voiture. Puis là, elle m'entend crier « sors, filme !» Elle sort. Puis eux, ils crient sur... Alors, c'est comme... Maintenant, c'est... Comment... Elle a 15 ans. Ouais. Dans à peu près un an, elle veut conduire. Et sa relation avec la police, ça va être une conversation que je vais devoir avoir avec elle.
Et comment est-elle en train de vivre cette situation?
C'est sûr, au début, les premiers jours, elle pleurait. Puis dans la voiture, elle pleurait. Puis elle disait « Oh, est-ce que c'est comme ça à chaque fois que tu sors? » Est-ce qu'ils font ça? » J'ai dit « Tu sais, j'essaie de lui dire « Tous les policiers ne sont pas mauvais. » Mais ils ne sont pas. Mais d'un côté, comment je puisse lui dire ça? Ils étaient 6, il n'y a pas un qui a pu dire « Écoute, on ne devrait pas faire ça. »
Et tu ne sais jamais, ça va être lequel qui va...
C'est lequel, exactement. So, tu sais, j'essaie de parler. Puis oui, elle va mieux, mais c'est plus de l'incompréhension. Elle ne sait pas. Mm-hmm. C'est juste dommage. Que je pense que c'est la première interaction avec la police et ça a dû être ça.
Exact.
J'aurais aimé que ça aurait été autre chose.
Puis c'est un gros sentiment d'impuissance que tu ressens à un âge comme 15 ans, t'es toute jeune, puis tu vois juste ton parent vivre une expérience comme ça. Tu te sens tellement impuissant, comme si tu n'as rien fait.
Oui, puis tu sais, moi je suis d'origine africaine et tout, puis nous, tu sais, l'image paternelle est un peu importante.
Ouais.
Puis là, je vois ma fille qui me voit dans une situation vulnérable, une situation où je peux rien faire. Elle me voit comme... Tu sais, c'est un peu la honte, tu vois.
Ouais, absolument.
Puis c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. J'essaie de ces cas du monde, puis... Oh, mais tu sais, ça va passer. Non, ça va pas passer. Ça va passer, oui, mais elle va être quand même traumatisée pour un bout.
Mais ce trauma peut aussi rester pour des générations.
T'sais. Oui.
En fait, il est resté pendant des générations. Aux États-Unis, il y a le concept, le generational trauma, surtout provenant de l'esclavage et de tes principes. Puis c'est... Ouais, c'est grave.
Oui, c'est... Ah,
excusez.
Oh, vas-y.
Non, en fait, je voulais juste... posé par rapport à filmer les policiers, à quel point ils peuvent demander, ils peuvent te dire d'arrêter?
Il n'y a pas. La Cour suprême est claire. On peut filmer les policiers tant qu'on ne le dérange pas dans leur travail.
Mmh, absolument.
Ma fille ne dérangeait en
elle
rien
loin,
leur
elle
travail.
Était...
Elle était loin dans le véhicule, à côté du véhicule.
Même sur votre...
Elle dérangeait en rien. Elle aurait pu leur filmer juste du début jusqu'à la fin. Ils n'avaient pas le droit de lui dire, tu n'as pas le droit de filmer. Et ils le savent, les policiers. Mais pour moi, ils ont su, une jeune fille... probablement elle sait pas, ils vont faire peur, puis sûr elle va aller s'asseoir dans la voiture si un policier lui dit tu vas avoir des problèmes.
Ben oui, une fille
elle vient de me voir, me faire me noter, c'est sûr qu'elle va pas aller contre qu'est-ce qu'il lui dit.
Il s'attaque à sa vulnérabilité.
Oui.
Mais c'est vraiment fou. Puis justement, on parlait avec Fernand justement d'essayer l'odeur de profilage. Je pense qu'on en a parlé un petit peu. Est-ce que vous avez senti que c'était du profilage dès le début, ou c'est à partir de quel moment que vous vous êtes dit ok, là c'est pas normal comme intervention?
Au fond, quand il m'a posé des questions, j'ai trouvé bizarre, mais j'ai pas fait grand-chose. Quand il est venu à mon véhicule en premier, la première question, c'est « Tu vas où ?»
Alors, ce qui est étrange comme question.
Mais même là, j'ai pas trop bronché. J'ai dit « Bon, je trouvais que c'était bizarre, mais je l'ai dit, je m'en vais chercher la nourriture avec ma fille. » Après ça, il me dit « C'est à qui la voiture ?» Je dis « C'est à ma femme. » Puis là, il m'a posé une question, puis c'est là que j'étais surpris. Il m'a dit « Est-ce que c'est elle qui est assise à côté de vous ?» Mais je viens de te dire, je m'en vais avec ma fille prendre la nourriture, puis on est juste les deux. Pourquoi tu me demandes si c'est elle qui est assise à côté de moi? C'est là que j'ai trouvé Il y a quelque chose, mais quand il a pris mon permis puis il est parti avec, puis après il m'a mis le menottes pour me dire mon permis était faux. Oh, là ouais. Vraiment j'étais comme non, mais c'est pas possible, c'est ma face sous le permis. C'est là que j'ai dit non. Si j'étais Jean Tremblay et blanc, impossible que cette situation m'arrive. Impossible.
Absolument. Puis comme Fernando l'a dit juste avant, le fait de conduire, comme dans l'arrêt Ville de Montréal contre Baptiste, le fait de conduire l'automobile de son conjoint, ce n'est pas un motif pour commencer à dire que ce que la personne fait, c'est louche. C'est parce que tu conduis l'auto de ta femme, de ton mari, que automatiquement, ding, 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 il y a quelque chose de louche. Donc, ça, c'est vraiment.
Et après ça, il me donne le prétexte du cellulaire. Et même si tu voulais me donner un ticket pour un cellulaire, comment on finit par 15 minutes derrière une voiture d'autopatrouille? Il y a comme une disproportion dans la réaction qui ne marche pas. Si j'avais été violent ou quoi que ce soit avec vous, mais je méritais d'avoir une contravention pour avoir entravé au travail de policier.
Ce n'est pas le cas.
Ils m'ont jamais donné ça. Voie de fait sous police, ils m'ont jamais donné ça. Puis je sais pourquoi. Parce qu'ils savent pas les vidéos que ma fille a pris. Vous garantissez que s'il y avait pas de vidéos, je serais parti là avec plus de tiers que ça.
Absolument. Ouais. Absolument. Puis s'ils avaient pas vu que vous étiez avocat.
Avocat, ça aussi.
Est-ce que si vous n'aviez pas été avocat, qu'est-ce que vous croyez qui serait arrivé?
Il m'aurait probablement amené au poste. Puis je sais pas, parce que au fond, moi je trouve encore le mystère que mon permis de conduire était faux, mais je sais même quelle enquête qu'il a fait. Mais je pense c'est quand il a fouillé les affaires puis il a vu mes choses, il a dit bon, je pense pas que il va mentir, soit il m'a laissé là à ce moment-là. Peut-être un autre individu qui aurait pas été avocat, il l'aurait amené au poste pour faire plus d'investigations plus loin, perdre son temps. Donc, quelques heures dans une cellule, ça peut aller loin, là.
Oui.
Est-ce que la police peut se fouiller dans l'air?
Du tout. Et même si, nous autres, au fond, il y a un concept, vous devez comprendre. Il y a quelque chose, le plus important dans notre métier, c'est le secret professionnel. C'est tellement important qu'on passe 2 à 3 jours à l'école du barreau, juste sur la question. Parce que c'est la manière de protéger les citoyens et nos clients. Alors, même si les policiers ont un mandat, pour mon arrestation, ils ont besoin d'un autre mandat parce que je suis avocat pour fouiller mes biens. Et c'est probablement pas eux. Il y a une manière, tout un processus. Mais même là, c'est, je leur dis là, écoute, vous ne pouvez pas fouiller mes affaires comme ça. C'est couvert par le secret professionnel. Vous faites, je suis avocat. Ils rient. Puis ils continuent à cœur joie à fouiller dans mon portefeuille, mon téléphone. Puis ils savent qu'est-ce qu'ils font. C'est pas vrai. Vous voyez? Mais ils continuent quand même. Ils sont en train d'enfreindre la loi. Mais vous êtes des policiers supposé de maintenir l'ordre et la loi, pas les enfreindre. C'est pas normal.
Absolument. Absolument. Puis je pense que vraiment, ça montre un peu les failles parce que, comme vous dites, si vous n'étiez pas avocat, jusqu'à où ça serait allé cette situation-là? C'est là que ça nous prouve que, dans le fond, quand on connaît nos droits, là, la game change. Là, c'est plus la même chose. Quand on connaît nos droits, tout d'un coup, on peut plus trop faire ce qu'on veut avec vous. Donc. C'est vraiment.
C'est sûr, les policiers, ils connaissent plus la loi que le coin des citoyens.
Mais oui.
Eux, ils le connaissent par cœur, la loi. Ils savent comment la contourner. Ils savent, tu sais, ils arrêtent des véhicules. Puis ils savent très bien qu'ils ne sont pas supposés parler aux gens, aux passagers. Mais ils essaient toutes les manières de le faire.
Absolument. Ben, c'est ça qu'il faut vraiment. Puis je pense que, comme vous avez dit, plus on en parle, plus on fait de plaintes. Plus à un moment donné, on va se réveiller en tant que société puis dire « Wow, il me semble que c'est pas normal. » Puis comme vous dites, les 4 profilages, ça se ressemble tout le temps. C'est tout le temps une interception en auto, on trouve un prétexte, et puis après, ça escalade. Donc, c'est vraiment important d'en parler. J'aimerais vraiment vous remercier au nom de toute l'équipe de la clinique juridique de Saint-Michel d'être venue aujourd'hui avec nous, de nous avoir parlé. C'était vraiment super intéressant, et puis on est vraiment très contents de vous avoir rencontré. Maître Bois, c'est un avocat criminaliste également, si je me trompe.
Oui.
Exactement, donc c'est son domaine de pratique, si on veut. Donc on est vraiment content de vous avoir reçu. Puis on aimerait juste faire un petit remerciement à nos collaborateurs, si je peux dire ça comme ça. Donc c'était notre 9e émission du projet Touche pas à mes droits, en collaboration avec la Ville de Montréal, le Forum Jeunesse de Saint-Michel, Néolabs, donc on a Zenga avec nous, ainsi que les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Et comme toujours, vous pouvez écouter nos épisodes sur le site internet de la clinique à csjsm.ca/podcast. Ou sur Spotify également. Donc, soyez à l'affût de notre prochaine émission et on se rejoint pour un prochain épisode pour parler du profilage racial.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité.
Les producteurs Nuit d'Afrique vous invitent à célébrer leur 35e anniversaire en musique. Du 2 au 7 novembre, découvrez les 10 groupes de cette programmation spéciale sur la mythique scène du Club Balatou. Un événement anniversaire gratuit à ne pas manquer. Plus d'informations sur productionsnuitdafrique.com.
Merci beaucoup. Thank you very much.
Hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
The Association des services de réhabilitation sociale du Québec is filing a class action suit. If you were strip searched between July 13, 2006 and July 1, 2011, if you were in one of the following facilities, Bordeaux, Rivière-des-Prairies, Roberval, Saint-Jérôme, or the male sector of Quebec City, you may be able to be part of this claim. For complete details, go to asrsq.ca/class action. That's asrsq.ca/class action. Claims must be filed before January 16th, 2022.
I went to residential school. I was just 8 years old.
Gaila Kasla. My name is Gennarji O'Sullivan of the Tlaalitsis Nation, originally from Turner Island. You're listening to Wendell exploring the legacy of Indian residential schools.
Our next speaker here is Viola Thomas. She is also a residential school survivor.
Part of our obligation where I work with the Truth and Reconciliation Commission of Canada is to inform Canadians on the truth. But I believe that as more Canadian people understand that this was Canadian law and Canadian policy, and that Canadians need to take responsibility for the shared history, I also believe that Canadians have a responsibility to resonate reconciliation with the First Peoples of this country. And what did we learn when we went to the school? We learned how to be bullies, how to be mean to each other, how not to love, how not to feel a great sense of pride of who you are and where you come from. I learned about racism, and I didn't know what that was. I really didn't know what racism was. I learned about sexism, and as a young girl, I didn't know about sexism. There were many forms of abuse, not just the physical, but the intellectual abuse. To always be reminded that you're stupid and that you're nobody. To be told by your teachers and by the folks from the church that you're a savage, you're a squaw. And I just want to close with one of my heroes, a woman by the name of Winona LaDuke. And I offer this to all of our brothers and sisters who were abducted to residential schools. And I offer this with a good heart to non-Indigenous people so that they will pick up the torch. And this is what she says. There is no social change fairy. There is only change made by the hands of individuals.
You have just heard at Window exploring the legacy of Indian residential schools. Both my mother and I attended St. Michael's Residential School in Alert Bay, BC. This is a part of a larger project called Resonating Reconciliation that engages community radio as a tool to help define what reconciliation is. Resonating Reconciliation is meant to help reconcile all Canadians to this shared history. This is the work of the National Campus and Community Radio Association, the Rajam Slan Society, and this station. Resonating Reconciliation is also supported by the Indian Residential School Survivor Society and is funded by the Truth and Reconciliation Commission. To hear more, go to www.ncra.ca/resonating. Thank you.
previously broadcast program. The following is a previously broadcast program.
You're listening to archival content from CKUT 90.3 FM's Time Capsule. Check out ckuttimecapsule.wordpress.com for more.
Good evening and welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM or ckut.ca on the web. This is the special Perversité edition of our show. It is Monday, August 10th. About 25 years ago, on July 16th, 1990, a mostly queer after-hours party called Sex Garage, which was held in the Old Port of Montreal, was raided by police. The raid involved intense and homophobic police violence and a number of arrests. The reaction to these raids, which included a kiss-in and a number of protests and demonstrations, would lead to a new relationship between queer people and the public, as well as the formation of the now no longer existent Diversité, Montreal's first LGBTQ Pride Festival. Tonight, we'll hear from QueerCore alumni Poyle O'Dear and photographer Linda Don Hammond, whose photos were instrumental in holding